Bonjour à tous. Les talibans au palais présidentiel de Kaboul, a priori dans le calme pour l'instant, alors qu'à l'aéroport de la capitale afghane, c'est le chaos le plus total. Les étrangers sont évacués dans la précipitation. Les Afghans menacés s'agrippent aux passerelles des avions dans l'espoir de prendre un vol. Nous ferons le point dans ce journal. La communauté internationale se réunit à l'ONU, à Bruxelles. Les Européens, demain, ce soir, le président français doit s'exprimer sur la situation afghane à la télévision. La pandémie de coronavirus galope toujours en France, qui vient d'être classée comme pays à risque élevé par Hong Kong. Le variant Delta, qui s'est imposé en moins de 2 mois, représente désormais 84% des cas en France, selon le dernier pointage de Santé publique France. En Martinique, la 4e vague laissera des traces psychologiques. Nous y serons. Haïti, 1300 morts après le séisme de ce week-end. Les ONG craignent l'arrivée d'une tempête. La rentrée universitaire plus chère en France. Le logement pèse lourd. La FAGE demande une allocation de rentrée pour tous. Et puis les Jeux paralympiques de Tokyo auront lieu à huis clos. Derniers entraînements en France de Stéphane Houdet, le porte-drapeau français.
France Inter.
La conquête éclair de l'Afghanistan par les talibans a pris tout le monde de court à voir l'urgence et le chaos de ce qu'il se passe depuis quelques heures à Kaboul. Les puissances occidentales acculées évacuent leurs ressortissants dans la précipitation. Avaient-elles imaginé un dénouement si rapide ? Bonjour Julie Pietri.
Bonjour.
Petit retour sur les faits. Il y a 10 jours, la première capitale provinciale tombée aux mains des talibans, puis les unes après les autres la semaine dernière. Il y a 24 heures, le président afghan demandait encore aux forces de sécurité d'assurer l'ordre public à Kaboul. Depuis, il a quitté le pays. Hier après-midi, les talibans étaient aux portes de la capitale. Ils sont désormais dans les rues.
Oui, ils sont là et ils le font savoir. Ils installent des postes de contrôle, ils confisquent les armes des civils. Ils se mettent en scène, en armes, victorieux, au cœur du palais présidentiel. Un palais qu'a quitté le président afghan, Ashraf Ghani, pour, je le cite, éviter un bain de sang. Aucune information ne remonte d'ailleurs pour l'instant sur d'éventuels combats ou poches de résistance à Kaboul. Les talibans semblent s'installer plutôt calmement, si l'on peut dire, dans la capitale afghane. Leur cofondateur, le mollah Abdul Rani Baradar, explique dans une communication étudiée, maîtrisée, qu'il a demandé à ses hommes de faire preuve de discipline. Un porte-parole ajoute qu'aucun combattant n'est autorisé à entrer dans une maison sans permission. Le mot d'ordre affiché, c'est ni atteinte à la vie, ni atteinte à l'honneur des personnes.
Et à l'aéroport de Kaboul, Julie, en revanche, des scènes de chaos.
Avec des centaines, des milliers d'Afghans qui tentent de fuir en famille avec leurs enfants et qui se hissent sur les passerelles qui mènent aux entrées des avions. S'il vous plaît, ne vous précipitez pas, ont imploré ce matin les autorités aéroportuaires qui ont suspendu tout vol commercial. L'aviation civile afghane déconseille maintenant le survol du pays, survol désormais réservé aux appareils militaires. Si les civils afghans se pressent toujours à l'aéroport, malgré tout, c'est parce que la zone est sécurisée par les Américains. 6000 militaires qui ont d'ailleurs expliqué avoir dû tirer ce matin en l'air pour repousser la foule.
Merci Julie Pietri de la rédaction internationale. Air France et Lufthansa suspendent d'ailleurs le survol du pays jusqu'à nouvel ordre. Parmi ces personnes qui attendent de partir, Yama Enayat Zada, un franco-afghan, il vit à Orléans. Mais il était parti rendre visite à sa famille début juillet. Il est actuellement bloqué à Kaboul et décrit à nos confrères de France Bleu l'incertitude qui règne actuellement.
En ce moment, je suis en attente, donc j'ai communiqué tous les documents d'état civil, tout ça à l'ambassade. Ils sont en train de faire le nécessaire. Ils sont très très surchargés en ce moment. La seule chose qu'on attend, moi et mon épouse, de partir le plus vite possible parce que ici, la situation est incertaine et d'ici un quart d'heure, ça pourra changer, même d'ici une heure. Donc les choses, ça va tellement vite que personne ne comprend rien ce qui se passe. Et quand on voit les gens qui habitent ici, j'ai l'impression qu'ils ont perdu l'espoir. Donc chacun essaye de partir quelque part, rien que pour l'avenir de leurs enfants.
Et devant le retour au pouvoir des islamistes radicaux, les chancelleries étrangères, vous l'avez dit Julie, ont regroupé leurs ressortissants à l'aéroport. Les opérations d'évacuation sont colossales. 30 000 personnes à évacuer pour les Américains, entre militaires et civils afghans. La France doit faire partir ses premiers ressortissants dans l'après-midi. Éric Bégala, vous êtes avec nous. Alors, qui évacue-t-elle ?
Bien, en priorité, les ressortissants français, bien sûr. Il s'agit des diplomates, mais également les contractuels qui travaillaient pour tel ou tel projet, souvent humanitaire, et les membres des ONG. Mais il y a aussi et surtout, semble-t-il, les Afghans ayant travaillé pour les Français à divers titres comme interprètes, mais aussi dans le cadre de ces mêmes projets. Il y aurait pour le moment 250 personnes, dont 200 Afghans, inscrits sur le registre des évacuations françaises. Alors celles-ci seront conduites par deux avions de transport de l'armée de l'air, un C-130 et un A-400M, qui sont partis hier se baser aux Émirats Arabes Unis, où la France dispose d'une base aérienne, et c'est à partir de là que les appareils vont tourner pour évacuer Français et Afghans depuis Kaboul.
Et Eric, il n'y a pas que les Français qui évacuent, bien évidemment.
Oui, alors l'Allemagne, par exemple, prévoit le déploiement de plusieurs centaines de militaires de la Bundeswehr pour organiser le rapatriement de plus de 2000 personnes, essentiellement des Afghans d'ailleurs, ayant travaillé pour le contingent allemand. Le pont aérien allemand est prévu pour durer une quinzaine de jours, jusqu'à la fin du mois en fait. L'Italie a également envoyé hier soir un premier appareil sur Kaboul pour commencer des opérations d'évacuation d'urgence. L'appareil doit ramener ce lundi une centaine de personnes, des diplomates et des Afghans ayant collaboré avec les troupes italiennes. Les Britanniques avaient annoncé dès la fin de la semaine dernière déployer à Kaboul 600 militaires pour organiser pareil rapatriement. Mais bien sûr, c'est le dispositif américain qui est le plus important. Washington ayant dépêché quelques 6000 soldats pour organiser et sécuriser l'évacuation en tout de près de 30 000 personnes.
Et comment expliquer ce que tout le monde prévoyait, à savoir le retour des talibans 20 ans après avoir été chassés du pouvoir par les Américains suite aux attentats du 11 septembre. Après la capture d'Oussama Ben Laden il y a 10 ans, il y avait encore 100 000 GIs en Afghanistan pour former les troupes afghanes. Des centaines de milliards de dollars plus tard, l'armée afghane est en déroute totale. L'avancée des talibans s'est faite quasiment sans combat. Elie Tenenbaum, chercheur à l'IFRI, explique à Hélène Roussel ce matin sur France Inter la faiblesse de cette armée.
Vous avez à la fois des soldats qui n'ont pas été payés et puis des soldats qui ont été payés qui n'existent pas, des soldats fantômes. Et ça, ça a été fait depuis très longtemps pour gonfler les bataillons. Et évidemment, la différence, c'est le colonel ou c'est le général qui s'empoche la différence. Et puis, ça a été dit... C'est une armée qui a été créée comme auxiliaire d'une d'armée occidentale,
oui, c'est-à-dire qui
n'a pas été construite pour fonctionner sans un appui international. Et c'est ça le problème, la manière dont on a pensé l'armée dès le début.
Et sur franceinter.fr, article de fond à lire sur les 10 dates clés sur l'Afghanistan et les images du chaos à l'aéroport de Kaboul. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit cet après-midi à New York pour débattre de la situation en Afghanistan. Le chef des Nations Unies se préoccupe pour les droits des femmes. Les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne se retrouvent demain. De son côté, le président de la République réunit depuis ce midi un conseil de défense. Bonjour Maxence Lambrecq.
Bonjour.
Emmanuel Macron s'exprimera ce soir à la télévision à 20h et c'est assez inhabituel.
Oui, exceptionnel. Même aucun président français ne s'est ainsi exprimé depuis le fort de Brégançon. Mais nous assistons à un basculement géopolitique majeur, explique l'Élysée. C'est un sujet de préoccupation mondiale. La France se doit de réagir. Emmanuel Macron va, comme lors de ses allocutions Covid, apparaître le plus protecteur possible. C'est la priorité de ce Conseil de défense en ce moment. Comment assurer la sécurité, la protection des Français encore sur place et des Afghans qui ont aidé la France et la coalition. Car le débat politique commence tout juste. Jusqu'à quel point accueillir ? Ses adversaires prennent déjà position. Xavier Bertrand craint une nouvelle vague migratoire. Marine Le Pen, un risque accru d'attentat. Il y aura donc du « en même temps » dans cette allocution présidentielle. Rigueur et humanité. Emmanuel Macron ne veut pas apparaître comme le commentateur d'un événement qui lui échappe. Il veut coordonner une réponse européenne, montrer sa mobilisation en plein été. Et il entretient ainsi sa stature internationale que les Français lui accordent volontiers. En janvier dernier, il n'avait pas hésité non plus à se poser en défenseur de la démocratie, porteur d'un message universel, en réagissant depuis l'Élysée, derrière un drapeau américain, à l'attaque du Capitole à Washington.
La Russie, elle ne prévoit pas d'évacuer ses ressortissants. L'ambassadeur russe à Kaboul rencontre les talibans demain. Le pays s'est dit surpris par la vitesse avec laquelle ils ont pris le pouvoir et attend de voir quels vont être leurs agissements. La Chine, elle, pays frontalier de l'Afghanistan sur 76 kilomètres, dit vouloir des relations amicales avec les talibans. Le fils du commandant Massoud appelle dans une tribune à la résistance. L'Afghanistan, on en reparle ce soir, ce sera le téléphone sonne sur Inter.
France Inter, le journal de 13h, Anaïs Feugat.
Inlassablement fouiller les décombres, trembler aux répliques du terrible séisme de samedi en Haïti. Le bilan est de près de 1300 morts. 30 000 maisons ont été détruites ou endommagées dans la ville des Cayes, à 160 km de la capitale. Mais les efforts sont d'autant plus difficiles que la tempête tropicale Grace s'approche de l'île. Florence Donis est directrice des opérations et des ressources techniques chez Handicap International.
Nous sommes effectivement extrêmement inquiets de la tempête tropicale qui approche, notamment de la montée des eaux. Il y a des centaines de personnes qui sont sans abri aujourd'hui et qui pourraient se retrouver en première ligne sous les éléments. Et donc, nous sommes très inquiets par cette tempête tropicale qui risque de compliquer notre assistance. Évidemment, avec les décombres des maisons, avec des routes coupées, l'accès est très compliqué. Et donc, une des choses que nous allons regarder en tant que handicap international, c'est un acheminement de l'aide à travers des bateaux. Maintenant, dans ce genre de situation, et on l'avait déjà vécu en 2010, l'insécurité est souvent moindre, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un élan de solidarité qui fait que l'aide humanitaire peut passer et peut être acheminée de manière assez rapide. Dans ce genre de situation, les groupes armés diverses et variées, les mafias locales, sont en général en appui aux populations. Donc pour l'instant, en tout cas, nous n'avons pas à déplorer quoi que ce soit d'un point de vue de l'insécurité.
Florence Donis avec Clémence Pénard. Le pass sanitaire en France, après une semaine de rodage dans les bars, les restaurants, place aux sanctions et élargissement aux grands centres commerciaux. La Nouvelle-Calédonie, rare territoire épargné par le Covid-19, annonce ce matin aller même plus loin. Le gouvernement local va rendre la vaccination obligatoire, par crainte du variant Delta. La délibération sera adoptée mercredi. Alors cela peut-il protéger la population d'une éventuelle propagation? Bonjour Sophie Bécherel.
Bonjour.
Une étude américaine a comparé les résultats de l'impact des vaccins à ARN messager.
Oui, une étude menée sur 77 000 Américains ces 6 derniers mois, suivie par le réseau hospitalo-universitaire Mayo Clinic. Un tiers d'entre eux a reçu le vaccin Pfizer-BioNTech, un tiers du Moderna et le dernier n'a pas été vacciné. Il a été possible de comparer l'efficacité des deux vaccins dans le Minnesota parce qu'entre décembre et juillet, le variant Delta y a peu à peu supplanté l'autre souche, l'alpha. Une fois encore, la vaccination montre son efficacité globale contre le risque de forme grave du Covid-19 à hauteur de 75%. Mais face au Delta, on voit que l'efficacité des deux vaccins baisse. Le Pfizer, qui protégeait contre l'hospitalisation à hauteur de 85%, ne protège plus qu'à hauteur de 75% contre le Delta. Quant au risque d'infection, on passe de 76% à 42%. Le Moderna, que nous avons peu utilisé en France, s'avère plus efficace, plus protecteur, de 81% contre l'hospitalisation et de 76% contre la contamination par le Delta. Ces données font écho à des statistiques récoltées en Floride, où il y a cet été une flambée de cas. Pour les chercheurs, c'est donc cohérent parce qu'ils notent que le risque d'infection en juillet là-bas, avec deux doses de Moderna, est environ 60% plus faible qu'après une vaccination complète avec le Pfizer.
Et Santé publique France publie, comme tous les 15 jours aussi, une analyse de risque des variants. Le Delta est majoritaire partout. En France, c'est 84% des cas.
Une domination presque totale, selon les termes des épidémiologistes. Parmi les 5 variants préoccupants, le Delta montre une compétitivité accrue, deux fois plus transmissible que l'alpha, l'historique variant anglais. Il se caractérise par une charge virale plus forte dans le nez et la gorge des personnes infectées. Sa période d'incubation est raccourcie. Santé publique France, en complément de l'étude américaine, mentionne une étude récente israélienne. Chez les personnes vaccinées là-bas depuis plus de 5 mois, la protection contre l'infection diminue, en particulier chez les personnes âgées. Le Delta, comme le confirment des données anglaises récentes, présente enfin un risque accru de réinfection par rapport toujours à la souche historique alpha.
Le variant Delta qui vient d'ailleurs de convaincre le maire de New York à adopter pour sa ville un pass vaccinal. Il entre en vigueur aujourd'hui et c'est une première à l'échelle d'une ville aux États-Unis. Le reportage à New York de Loïc Loury.
Sur le comptoir du Porcelain, un restaurant du Queens, l'avertissement trône déjà depuis une semaine. Vaccination obligatoire pour dîner en intérieur. Max, le propriétaire, a pris les devants. À vrai dire, je crois que ça aurait dû être fait plus tôt. Le variant Delta, c'est très sérieux. Et je pense que ça fait partie de notre travail dans ce café-restaurant. Nous avons cette responsabilité d'assurer la sécurité des clients. Pour s'installer, il faut donc montrer patte blanche, un QR code ou une carte de vaccination. Les règles ne sont pas encore bien établi, mais Lise, une cliente, s'y plie volontiers.
Je connais des gens qui s'en inquiètent et qui pensent que c'est une atteinte à leurs droits. Mais si en défendant vos droits, vous mettez la vie des autres en danger, je crois que ça n'a plus rien à voir avec une affaire de droit. J'aimerais juste que ces variants arrêtent de circuler et c'est un pas dans cette direction.
Et si son amie Meghan s'attend à des protestations?
Les gens sont énervés parce qu'ils ne croient pas au vaccin. Je ne sais pas, moi, trouvez-vous un autre passe-temps? On ne veut pas des gens
gens non vaccinés qui propagent le virus.
Les choses sont ce qu'elles sont, ajoute le patron. Les établissements récalcitrants auront un mois pour s'habituer à ce pass vaccinal avant que les autorités ne commencent à distribuer des amendes. New York, Loïc Loury, France Inter.
En France, le nombre de patients hospitalisés est toujours en hausse. 9800 malades dans les hôpitaux, preuve de la virulence de cette quatrième vague qui dévaste les Antilles. En Martinique, une dizaine de morts chaque jour. La morgue de l'hôpital est saturée. Tout le monde connaît un proche touché par la maladie qui laissera des traces psychologiques. L'envoyé spécial de France Inter, Faustine Calmel, s'est rendu à l'association SOS Crise au nord-ouest de Fort-de-France.
Dans cette petite salle au mur jaune, quand Fabienne Sainte-Rose décroche le téléphone, elle sait déjà de quoi on va lui parler.
Vous me disiez que tout le monde parlait du Covid, c'est ça ? J'ai pas bien compris.
Secrétaire à SOS Crise, elle a vu le nombre d'appels doubler depuis début août.
De personnes, toute la famille est contaminée, et personnes qui ont peur aussi pour leur vie. On sent vraiment qu'on vit dans un chaos.
Avec le confinement, elle évoque aussi la détresse économique, les violences intrafamiliales et elle s'en aperçoit dans sa propre famille, le recours aux addictions.
Moi, ma sœur, elle avait 51 ans, donc elle laisse des orphelins de 14 ans, de 20 ans. On est là confronté à une mort collective, directe, brutale. Donc, c'est aussi pour anticiper les troubles post-traumatiques, pour anticiper l'augmentation de la consommation d'alcool, l'augmentation de la consommation de cannabis.
Des conduites à risque qui fragilisent les plus jeunes. Louis Joël est chef du service de psychiatrie au CHU de Martinique, président de SOS Crise.
On a observé une augmentation des conduites suicidaires il y a quelques semaines chez les adolescents. Leur évolution peut être d'autant plus perturbée qu'un des parents ou un proche est décédé. Et donc ça vient impacter de façon douloureuse et peut-être dangereuse leur devenir.
Alors une fois la crise Covid passée, il faudra en soigner les effets pendant plusieurs années, craignent les responsables de l'association.
Faustine Calmel à Bellefontaine en Martinique. Scène confuse de contrôle de police la nuit dernière en Seine-Saint-Denis à Stain. Deux personnes ont été gravement blessées par des tirs. Un conducteur de voiture et sa passagère, leur pronostic vital est engagé. Selon les premiers éléments, l'automobiliste aurait refusé d'obtempérer aux forces de l'ordre. Il aurait percuté des policiers en faisant des manœuvres. Les forces de l'ordre ont fait usage de leurs armes. Deux enquêtes ont été ouvertes par le parquet de Bobigny. La rentrée universitaire toujours plus chère. La FAGE, la principale fédération des associations étudiantes, chiffre cette augmentation à plus 1,32%. La téléphonie, les produits alimentaires augmentent, mais ce n'est pas tout, explique Paul Maillot, président de la FAGE.
Ce qui pèse lourd, effectivement, ça va être le logement en premier lieu, puisque ça constitue le premier poste de dépense chez les jeunes, et pourtant le premier vecteur d'émancipation. Aujourd'hui, le logement a connu une hausse de 1,98% si on prend la moyenne en région ou en Île-de-France. Et c'est typiquement le genre de choses qui bloque les étudiantes et les étudiants, notamment à la rentrée universitaire. La FAGE revendique la mise en place d'une allocation de rentrée étudiante, à l'instar de ce qui peut être proposé dans le secondaire avec l'allocation de rentrée scolaire, qui permet aux élèves, ou en tout cas aux familles, de pouvoir alléger le coût d'une rentrée. Et c'est une allocation qui augmente d'année en année, mais qui s'arrête dans le supérieur, tandis que les dépenses, quant à elles, persistent.
Paul Maillot, le président de la FAGE, avec Fabien Cazot. Sans surprise, les Jeux paralympiques de Tokyo seront à huis clos. Les organisateurs viennent de l'officialiser. Ils débutent mardi prochain à Tokyo. Les athlètes, eux, s'envolent dans quelques jours. D'ici là, le porte-drapeau de la délégation française termine sa préparation sportive. Zilan Kokidjit l'a rencontré au centre d'entraînement de la Fédération de tennis.
Encore quelques échanges et les derniers ajustements avant de boucler la valise. Et ce n'est pas une mince affaire puisqu'il faut prévoir beaucoup de matériel.
Il se trouve que le tennis fauteuil, c'est un mélange de tennis et de sport mécanique. Donc on part avec nos raquettes, nos cordages, tout ce qui est autour du tennis. Mais ensuite, c'est tout ce qui tourne autour du fauteuil roulant. Sinon, c'est aussi ce qu'on emmène au cours de chaque grand chelem tout au long de l'année.
Des grands chelems, Stéphane Houdet en a remporté 4 et il compte bien terminer ses JO en haut du podium.
On y va pour tout rafler et comme on joue deux épreuves, on cherche un doublé, double médaille d'or, ce qui serait extraordinaire. Mais en même temps, c'est toujours l'objectif des sportifs, hein. On va rarement pour faire deuxième.
Déjà médaillé d'or en 2008 et en 2016, l'ancien numéro 1 mondial sera pour la première fois porte-drapeau, une responsabilité particulière.
On sait que nous serons parfois devant avec ce drapeau et la pression, mais on sera aussi et surtout toujours derrière. Derrière la délégation, derrière l'équipe de France, derrière le drapeau et tous les Français.
Et le tennisman pourra compter sur son expérience, lui qui a déjà participé à 4 éditions des Jeux Paralympiques.
Stéphane Houdet, le porte-drapeau français. Le tennis fauteuil débute le 27 août. On jette un œil sur le temps.
La météo avec Hello Business, la nouvelle offre bancaire dédiée aux indépendants par Hello Bank. Plus d'infos sur hellobankpro.fr. Hello Bank est l'offre 100% digitale de BNP Paribas.
Bonjour Elodie Calac.
Bonjour à tous.
Plus frais mais encore chaud sur le sud-est.
Oui, on a seulement 18 degrés à Cherbourg cet après-midi, 20 à Lille, 23 à Paris et à Rennes, 24 à Bordeaux, 25 à Lyon ou à Toulouse, mais encore 31 degrés pour Bastia, 32 à Montpellier et à Marseille, jusqu'à 35 à 38 degrés encore possibles dans l'intérieur du Var. D'ailleurs, la vigilance orange canicule est maintenue sur l'Ardèche, la Drôme, les Alpes de Haute-Provence, le Var et les Alpes-Maritimes. Alors, côté ciel, on retrouve le soleil sur le sud-est avec du vent jusqu'à 70 km à l'heure, 90 pour la Tramontane, de la Bretagne et des Charentes vers la Normandie et la région parisienne, de bons moments de soleil reviennent. Le vent de nord-ouest est parfois un peu désagréable. Et puis ailleurs, ce sont les nuages qui dominent avec parfois quelques gouttes. Demain, il y aura peu de changements. Une ambiance nuageuse et fraîche, mais ça restera estival sur le sud-est avec du soleil et une nuit encore chaude sur le sud-est, 18 à 23 degrés.
Merci Elodie Calac, Météo France.